Et donc, vous avez déjà évoqué le surréalisme. En général, on la met là-dedans,
oui,
dans le surréalisme.
Oui,
et
oui,
bon,
oui,
évidemment,
oui,
ça a joué un rôle important, même si le mot
oui, «
les
oui,
isme
oui,
tout le temps, le XXe
oui,
siècle, ça pose
oui,
toujours un problème.
Oui, oui.
Bon. Donc, quelle est son approche là, ou sa particularité en contact avec les surréalistes?
Ce qui est intéressant, c'est que donc, vers 25, 26, 27, même. Citoyen et Chtchersky viennent à Paris. Chtchersky, je crois, a hérité de son père, et avec cet héritage-là, il s'installe à Paris.
Donc,
et même, ils font des expositions nommées artificialistes, il n'y a que deux, eux deux. Et d'ailleurs, Soupault, Philippe Soupault va être intéressé, il leur fait un texte. Il y a un texte, un très beau texte de Philippe Soupault, qui voit que là, il y a quelque chose de nouveau. Mais ils se tiennent à distance du surréalisme. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est la question de l'automatisme psychique ne les convainc pas. La question de l'automatisme ne les convainc pas.
Donc, on ne les a pas retrouvés dans ces séances-là, les fameuses séances de
Non, ils ne sont pas du tout, ils ne rencontrent pas les surréalistes à ce moment-là. Et il y a... parce que je pense aussi qu'ils sont tellement pris dans cet approfondissement de l'image, de l'espace, ils sont ailleurs en quelque sorte. Mais étant donné ce que j'ai évoqué, la démarche qui les fait aller dans les profondeurs de l'espace, de la matière, à travers aussi l'évocation de la mer, de ce qu'on trouve sous les eaux, l'évocation des mers lointaines et tout ça, et tout d'un coup, il découvre cette sorte de pesanteur ou de dimension très forte, érotique du monde, hein, qui fait marcher le monde. Et en même temps, ça correspond aussi aux intérêts depuis le début de Toyen et Chtchersky pour la dimension érotique. Puisque dès toute jeune, elle fait, en 1920, donc 22, il y a un tableau 1920, et on le revoit dans un autre qu'elle a repris, qui est à peu près le même, de 1922, donc elle a 20 ans, qui est cet énorme coussin,
oui,
bon, qui est un immense coussin, où il y a un groupe de gens dans les positions les plus incroyables,
oui,
érotiques. Donc c'est quand même une jeune femme de 20 ans, en 22, je pense qu'elle est la seule au monde à avoir fait ça. Hein.
Oui, ça c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour.
Mais c'est ça.
C'est très drôle.
Et c'est ça. Et c'est ça qui caractérise, parce qu'elle est arrivée, quoi qu'elle fasse dans cet ordre-là, par tous ses dessins et ses tableaux, c'est qu'elle est arrivée à inventer une sorte d'humour érotique qui rend compte aussi de la liberté du personnage. D'abord, on trouve ça pratiquement jamais chez une femme. Et elle, il n'y a jamais eu même un millimètre de vulgarité, et en même temps c'est très drôle. Il y a une sorte de joie enfantine, de joie d'innocence animale, mais de joie formidable, qui fait que, et c'est ça aussi qui introduit une turbulence, moi j'appelle ça une sorte de turbulence, qui est liée à sa liberté qu'elle avait. Et c'est ça, si je parlais de l'enfance, il y a une sorte de liberté qui fait qu'elle regarde le monde différemment, et qu'elle va prendre des chemins que personne n'a pris. Parce qu'elle a cette liberté en elle, et toute sa vie, je dois témoigner, qu'elle a été continuellement intéressée par justement la dimension érotique qui est absolument essentielle chez elle.
Mais qui prend toute forme, je veux dire, parce que ce que vous venez d'évoquer, là c'est très visible, même,
oui, bon, oui,
même un peu, je veux dire, c'est tellement visible, tellement direct.
Il y a une sorte de provocation,
oui,
continuelle.
C'est drôle,
oui,
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 c'est drôle à la
oui,
limite,
oui, oui.
Et puis après il y a des formes
c'est ça,
évidemment
c'est ça,
complètement.
Et alors justement, comme il y a en même temps cet approfondissement que j'ai évoqué là, de leur aventure à travers l'image, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils prennent l'un et l'autre de plus en plus au sérieux, justement, à la fois donc, la littérature érotique proprement dite, les productions érotiques, les images dites pornographiques, et en même temps, ça correspond à la découverte de Sade par Indra Chtchersky, qui commence d'ailleurs une biographie du marquis de Sade. Et ils sont complètement fascinés, dès les années 30, par Sade. Et à tel point que, en 31, ils vont commencer, Stirsky, à faire la revue érotique, qui s'appelle La Revue érotique, qui est une revue qui n'est pas sous le manteau, mais qui va se diffuser par, comment ça s'appelle, une souscription. Mm-hmm. C'est ça. Et là, cette revue est passionnante parce qu'à la fois, il y a la traduction de textes érotiques des grands classiques et en même temps, une attention très grande portée à la psychanalyse, de ce point de vue-là, à l'ethnographie, Malinowski, par exemple, choses comme ça. Et ça va durer 3 numéros, cette revue, donc ça va durer 3 ans et après, il va y avoir un effet de censure et dans le même temps, Stirsky et Toyen font les éditions 69, qui publient aussi des textes érotiques, dont Justine de Sade, que Toyen illustre. Elle est la première femme. Je ne sais plus s'il y a des femmes qui ont illustré Sade, je ne sais pas. Mais ce qu'elle fait, c'est tout à fait bouleversant. Et elle collabore continuellement à cette revue-là, qui après va être suspendue pour des raisons de censure. Mais on voit comment, là, ce courant érotique, cette dimension érotique devient essentielle chez eux. Et c'est une des raisons, là, je pense, très forte, qui va les rapprocher du surréalisme. Parce que ça correspond à l'époque Minotaure, où les surréalistes sont plus que jamais sous l'influence de Sade. Je dis plus que jamais sous l'influence de Sade, parce que à ce moment-là, depuis la fin des années 20, c'est-à-dire 27-28, ils sont en liaison avec Maurice Hine. Mm-hmm. Maurice Hine, c'était celui qui a redécouvert le plus et édité des manuscrits qui n'étaient pas connus du Marquis de Sade. Et en particulier, c'est lui qui a fait la première véritable édition des 120 journées de Sodome. Mm-hmm. Et à tel point que, à la fin de la revue qui s'appelait La Révolution surréaliste, il y avait dans La Révolution surréaliste une rubrique qui s'appelait Actualité du Marquis de Sade, qui rendait compte de toutes les découvertes que faisait Maurice Hine, justement, et en particulier aussi quand il y a eu, après Minotaure, et je pense que là, la découverte par ces jeunes gens-là des écrits de Sade, non seulement les a fascinés, mais en même temps a aidé les uns et les autres à aller peut-être plus loin que là où ils seraient allés tout seuls. Ça y est, une force d'émulation très grande, et en plus, bon, j'ai appris que il se trouvait que Man Ray habitait à l'étage au-dessous de Maurice Hine, pendant que Maurice Hine transcrivait le manuscrit des 120 journées et que Man Ray lisait au fur et à mesure les choses comme ça. Et bon, on les prend les uns et les autres, c'est aussi bien Dali avec ses femmes démontables, c'est aussi bien Belle-Mère, Masson, n'en parlons pas, avec les massacres, etc. Et là, il y a jamais, en quelque sorte, l'influence de Sade n'a été aussi grande, et ça correspond justement au moment où, à Prague, Toyen et Stirsky sont particulièrement intéressés par Sade et vont d'ailleurs faire un voyage à Lacoste en 32.
Au château
de Sade, où Stirsky fait d'admirables photos. Et après, ce sera à l'origine d'un tableau qui est ici au château Lacoste, qui est là chez Toyen. Et d'un côté, cette dimension érotique des surréalistes, et puis d'un autre côté, il y a les prises de position politiques des surréalistes dont ils se rapprochent de plus en plus, c'est-à-dire qu'ils sont marxistes, mais qui prennent les distances les plus grandes avec le marxisme autoritaire, avec le stalinisme, etc. Et donc, ce qui fait que tout d'un coup, il y a une collusion à la fois politique, poétique aussi, et érotique, qui fait que à un moment, donc, il y a la décision en 34 de qui est la fondation d'un mouvement surréaliste à Prague. Et Toyen a activement contribué à ça.
Donc elle ne s'est pas du tout accrochée à un mouvement, ça aurait pu être le cas, je veux dire, qui était un peu en vogue, etc.
Pas du tout, c'est ça, et ça je pense que c'est très important.
Oui.
C'est très important ça.
Elle a eu vraiment son propre chemin, c'est à partir du moment où il y avait une évidence que
voilà, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Elle est allée vers ça.